Vous écoutez
RMC.
La France qui rehausse sa posture de défense au Moyen-Orient. Voilà l'annonce d'Emmanuel Macron hier soir. Bonjour, général Dominique Trinquant. On va refaire le point minute par minute, j'allais dire, ce matin avec vous. Vous êtes l'ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Votre livre, D'un monde à l'autre, c'est aux éditions Robert Laffont. Et c'est au fond ce qu'on est en train de vivre. On est en train peut-être de passer d'un monde à l'autre. Je voudrais revenir sur les tout derniers développements de la nuit. On va parler évidemment des explosions qui ont été entendues à l'aube ce matin. Jérusalem, Dubaï, Doha, Bahreïn, au Liban. Mais aussi cette déclaration conjointe de Berlin, Paris et Londres, les trois pays qui ensemble déclarent qu'ils sont prêts, je cite, à des actions défensives nécessaires et proportionnées pour détruire la capacité militaire de l'Iran à tirer des missiles et des drones à leur source. Qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement? Est-ce qu'on est en train de rentrer dans la guerre?
Alors, on rentre dans la partie défensive de cette guerre, c'est-à-dire pas dans l'opération offensive américano-israélienne, mais nous avons des accords et nous avons des bases dans la région pour la France, Jordanie, Abu Dhabi en particulier. D'ailleurs, la base d'Abu Dhabi qui a été touchée, enfin la partie navale du moins. Et donc, on doit prendre des mesures pour défendre ça, défendre nos alliés et nous défendre. Alors, on a des moyens au sol, hein, je parlais d'Abu Dhabi, aériens, en Jordanie et à Abu Dhabi, mais aussi on a une frégate à la mer hein, qui permet d'intercepter des drones, des missiles, de façon à limiter les dégâts dans cette région.
Il y a donc une forme d'alliance, elles ont parlé d'une seule voix, Berlin, Paris et Londres.
Oui, tout à fait, et même un autre élément, vous savez que on parle du détroit d'Hormuz qui risque d'être bloqué, mais il y a aussi le détroit de Bab el-Mandeb où il y a les Houthis qui sont des proxys iraniens qui sont là.
Proxy, ça veut dire des alliés au
des alliés, voilà, des alliés iraniens qui pourraient interrompre le passage de Bab el-Mandeb. Et il y a une opération européenne qui s'appelle EPID. On a décidé de la renforcer avec deux bateaux français qui s'ajoutent au dispositif pour escorter les bateaux de commerce qui passent par là.
Quand vous dites qu'il y a effectivement nos bateaux, on a évoqué un temps la possibilité que le Charles de Gaulle refasse route alors qu'il est aujourd'hui basé, ce porte-avions nucléaire français, dans la mer Baltique, près de la Suède. Donc c'est effectivement très loin hein, s'il reprenait la route. Est-ce que cette option est envisagée?
C'est une option à envisager. Si vous voulez, il y a deux options. Soit de dire, dans le cadre de l'OTAN, messieurs les Américains, vous êtes occupés au sud, eh bien nous avons le porte-avions, monsieur Trump, ne vous inquiétez pas, le Groenland, on s'en occupe, vous voyez ce que je veux dire comme message envoyé à monsieur Trump, soit de dire, les intérêts français risquent d'être menacés et on renvoie le porte-avions en Méditerranée pour assurer la protection en Méditerranée. Ce sont les deux options. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait de décision qui a été prise.
Dans la nuit, Donald Trump a évoqué une sorte de calendrier. Il a dit que cette guerre, elle pourrait durer 4 à 5 semaines. Est-ce que d'abord c'est crédible? Est-ce que ça peut durer davantage? Ou est-ce qu'en 4 à 5 semaines, les objectifs, et d'ailleurs quels sont-ils, pourront être atteints?
Écoutez, je pense qu'il y a trois options. D'abord, les objectifs atteints, vous avez raison. Les dernières frappes frappent essentiellement le système de sécurité iranien. Passe d'Aran, police, répression des manifestations, etc. Donc il va falloir évaluer où on en est arrivé. Le deuxième facteur, c'est la logistique, tout bêtement. Combien de missiles, combien de munitions dispose-t-on pour faire la guerre, 4 semaines, 5 semaines? Je pense que c'est les chiffres qui lui ont été donnés par l'état-major. Le troisième critère, c'est la pression interne américaine. Aujourd'hui, bon, une grande partie de la population américaine n'est pas pour cette opération. Il y a eu 3 morts pour l'instant. Le président Trump reconnaît. Il ne faut pas que les pertes augmentent trop, parce qu'à ce moment-là, il risque d'avoir une pression aux États-Unis qui risque de le pousser à limiter ses opérations.
Vous parlez de la question du nombre de missiles. Évidemment, la question, c'est quelles sont les capacités iraniennes, quelles sont les capacités américaines, et aussi la question du dôme de fer, ces fameux missiles antimissiles pour protéger notamment la population israélienne, ce qui n'a pas empêché qu'il y ait eu plusieurs victimes hier et des missiles iraniens qui ont malgré tout réussi à toucher le sol israélien. Combien de temps Israël peut tenir? Est-ce qu'ils ont encore suffisamment de matériel?
Alors oui, il y a Israël, le dôme de fer dont vous parlez. Il y a le porte-avions, rappelons-le, qui est en Méditerranée, dont une des missions est la protection. Nous avons les alliés. Je parlais de la base de Jordanie. Déjà au mois de juin, les avions français avaient décollé pour intercepter des missiles. Donc il y a tout ce dispositif-là.
On peut aller aider, en quelque sorte?
Oui, bien sûr.
Compris les Israéliens, s'il le faut?
Oui, parce que l'attaque contre Israël, bien sûr, doit être protégée. Donc, c'est la lutte entre les capacités iraniennes de frappe et les capacités des alliés de protéger la zone.
Je voudrais qu'on puisse accueillir aussi Sylvie. Sylvie, vous êtes au téléphone avec nous de Ashdod, c'est dans le sud de Tel Aviv. Sylvie, comment se passe votre quotidien? Comment s'est passée la nuit?
La nuit, ça a été relativement tranquille du côté d'Ashdod. Dans le nord, ça a bougé pas mal. Ce matin, à 7h, ça a été une salve nationale. Ça a été un arrosoir de missiles, un arrosage de missiles. Toute la carte du pays a été mise de rouge. Ça a tiré en masse. Rebelote à 7h38. Ça tire de partout.
Vous êtes où au moment où on se parle, Sylvie?
Je suis à Ashdod, moi.
Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez rester dans votre maison, vous avez un abri, comment ça se passe?
Oui, de toute façon, la plupart, à partir de constructions remontant à plus de 25 ans, tous les appartements sont dotés de miklat, ce qu'on appelle la chambre de sécurité. Les maisons les plus vieilles, elles bénéficient ou de sous-sol ou d'entre-étage, ce qu'on appelle aussi les miklat. Et puis, pour les vieilles bâtisses, sont mis à la disposition ce qu'on appelle des abris, comme hier à Beth Shemesh. Ce sont des abris en extérieur.
Quand vous dites à Beth Shemesh, c'est là qu'il y a eu quand même 9 morts, effectivement, hier. Ouais. Comment réagissent, j'imagine que vous vous appelez les uns les autres, comment vous réagissez justement notamment à ces morts?
Écoutez, c'est la guerre. Je vais dire quelque chose qui risque de vous choquer. On vient de sortir du 7 octobre. On n'a pas fini avec Gaza. Il y a le sud Liban. La guerre nous laisse un goût amer. On sait que c'est pour notre défense. Nous, on a un droit d'existence et on doit s'affirmer. Aujourd'hui, c'est l'Iran qui était vraiment très menaçant, trop menaçant. Mais si on remet les choses en place, Israël, c'est 9,5 millions d'habitants. C'est une souris sur un dos d'éléphant. L'Iran, c'est 90 millions d'habitants. On est tout petit sur la carte. On est hyper puissant, mais on est menacé.
Et c'est effectivement ce que ressent la population israélienne. Merci en tout cas Sylvie d'avoir témoigné. Donc Sylvie au téléphone avec nous depuis le sud de Tel Aviv. Un mot d'ailleurs, Sylvie l'évoquait, le Liban, général Trinquant, entré dans la danse du Hezbollah hier, qui a tiré vers Israël. Israël qui a répliqué, le pouvoir libanais qui a condamné d'ailleurs plutôt les interventions du Hezbollah, reprochant au Hezbollah d'entraîner le Liban à nouveau dans une guerre qui n'est pas la leur.
Oui, et ça, c'est une bonne modification du langage du gouvernement libanais.
Ça m'a beaucoup frappé.
Oui,
c'est la première fois qu'il condamne d'abord le Hezbollah pour ses propres responsabilités.
Comme vous le savez, depuis la résolution 1701, en 2006, normalement, le Hezbollah aurait dû être désarmé. Ça a été très lent. L'ONU a mis une date finale, c'est-à-dire à la fin de l'année, fin 2026. La FINUL, où j'ai commandé un bataillon, devra avoir quitté, c'est-à-dire que le Liban doit avoir pris en main le problème du Hezbollah. Et je crois que le langage donc libanais est bienvenu. Ça veut dire qu'il condamne les actions du Hezbollah qui veulent entraîner le Liban dans la guerre, alors que le Liban ne veut pas rentrer dans cette guerre.
Merci beaucoup, Général. On aura beaucoup besoin de vous dans les prochains jours, parce qu'on le sent bien. On est effectivement au début donc de ce conflit. Je vous reprécise que Donald Trump a dit dans la nuit que ça durerait 4 à 5 semaines.